Et un rappel rapide de ce qu'on a étudié au début du chapitre 2. Dans le chapitre 1, on a étudié l'âme animale, et Be'ezrat Hashem, on aura l'occasion d'y revenir. Dans le chapitre 2, on a commencé à étudier l'âme divine, et c'était un sujet qui était assez complexe. Donc on va essayer de faire un résumé rapide, on va pas tout répéter, mais un résumé rapide de ce qu'on a expliqué la semaine dernière. On a expliqué que de manière générale, quand on voit dans la Gemara, quand on voit dans les Midrashim, il y a différentes images qui reviennent à chaque fois pour illustrer qu'est-ce que c'est la Neshama. Et c'est des images, quand la Torah nous donne une image, c'est pas par hasard. Quand on va nous parler, par exemple, de la pensée de Dieu, quand on va nous parler de toutes sortes de choses, c'est pas par hasard, il y a une raison. La raison, c'est parce qu'en vérité, il y a des concepts que la Torah veut nous faire passer. Et pour nous les faire passer, elle va nous donner des images de la vie de tous les jours que nous, on connaît. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on va utiliser aujourd'hui plusieurs images, des images qu'on connaît déjà dans la vie de tous les jours. Et avec ces images-là, on va comprendre, en vérité, qu'est-ce que c'est la Neshama. Donc, on a eu plusieurs définitions comme ça. Première définition, on a dit, bonsoir, première définition, on vient de commencer. On a dit que quand Akadosh Baruch Hu a créé la Neshama, c'est écrit qu'il a insufflé la Neshama. Alors que le reste du monde, c'est écrit que Dieu a parlé. Donc, parler contre insuffler. Alors, bien sûr, comme on a expliqué la semaine dernière, ça ne veut pas dire que Dieu a parlé ou que Dieu a insufflé physiquement. C'est une image, si on veut bien se concentrer. C'est une image que la Torah nous donne pour nous faire passer un message. C'est quoi le message? Quand je parle, je m'investis pas trop dans le souffle. La preuve, je peux parler des heures sans que je me sens essoufflé. Quand j'insuffle, qu'est-ce que je sens? Je sens tout de suite qu'au bout de quelques secondes, ceux les professionnels au bout de quelques minutes, je sens que je suis essoufflé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que de là on apprend que quand on dit que les Neshamot Israël ont été insufflés, alors que le reste du monde, les Malachim, le Gan Eden, les poissons, les animaux, le reste, tout ça, même tout, ça a été seulement soufflé, parlé, ça veut dire quoi? Il y a le premier message que la Torah veut nous faire passer ici, Akadosh Baruch Hu veut nous montrer, vous, les Bnei Israël, je me suis investi particulièrement en vous. Donc s'il s'investit particulièrement de nous, il attend beaucoup plus de nous. Parce que quand tu t'investis beaucoup plus dans une affaire, dans quelque chose, quand tu investis beaucoup dans un client, bah, t'attends beaucoup plus de lui, c'est normal. Ça, c'est élément numéro un. Donc souffler, VS, insuffler. Ensuite, deuxième élément.
Parler, insuffler.
D'accord? Donc souffler, insuffler. Nous, on est insufflé, c'est une image pour nous dire que nous sommes... c'est une image pour nous dire que nous sommes à fond connectés avec Akadosh Baruch Hu et qu'Akadosh Baruch Hu s'est investi beaucoup en nous. Premier message. Voilà, je vois que c'est passé Baruch Hashem. Deuxième message, je pense que celui-là il est passé aussi facilement la semaine dernière. C'était l'idée que le Rambam a expliqué de la Mahashava. On a dit que les Neshamot Israël étaient dans la pensée de Dieu, étaient le projet de Dieu. On a expliqué la semaine dernière que quand on se lance dans un projet, il y a deux phases. Il y a le moment dans lequel je pense au projet, je construis le projet dans ma tête, il y a le moment dans lequel je passe à la réalisation du projet. Deux phases complètement différentes. Pourquoi j'ai dit que deux phases complètement différentes? Parce que des fois, quand on est dans la réalisation du projet, on peut se perdre un peu des fois dans les détails. On peut oublier des fois pourquoi on est là. Alors que quand on est dans la phase du projet, en vérité, ça c'est la vraie raison pour laquelle je fais. J'avais donné un exemple très simple la semaine dernière, on va essayer de se concentrer, juste comme ça, parce qu'après sinon on va passer le film. On avait donné un exemple très simple. On avait dit comme par exemple une personne, il va décider de se lancer dans une affaire. Il a un projet dans sa tête, il a un nouveau business, une nouvelle idée, il veut se lancer dans une nouvelle affaire. Pourquoi il se lance? Pourquoi il se lance cette affaire-là? Pourquoi il se lance? C'est quoi son but? Il veut gagner de l'argent. D'accord? Ça c'est son but. Il veut gagner de l'argent. Maintenant, concrètement, quand il va commencer à travailler, c'est possible que pendant des années, il gagnera pas d'argent. Et qu'il pensera même plus à l'argent, parce qu'il a pas le temps de penser à l'argent, il pense au travail maintenant. Mais, qu'est-ce qu'on a expliqué? Tout est dans le moment dans lequel j'ai pensé au projet. Le moment dans lequel j'ai pensé au projet, c'est là qu'il y a le but du projet. Et c'est là qu'en vérité, comme on dit dans le Tlechadodi, sauf maase, ben marchava trila. Qu'en vérité, les moments les plus importants d'un projet, c'est le début du projet avant de commencer, et la fin du projet. Parce que, le début du projet, c'est là où je réfléchis où je veux arriver, et la fin du projet, c'est là où je suis arrivé. Mais au milieu, des fois, tu penses même plus pourquoi tu es là. Comme si je vous demande par exemple, je te dis pourquoi on a des enfants? Pourquoi on a des enfants? C'est quoi le but?
Descendance.
D'accord? Avoir descendance? Quand les enfants ils sont là, ils sont en train de te casser les pieds, de faire du bruit, etc. Les vacances, c'est les vacances en ce moment, non? D'accord? Bah pourquoi ils sont là? Tu penses même pas à ça.
C'est pour ça que tout le monde.
Pourquoi? Parce que t'es ni avant ni après, t'es pendant. Et pendant, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps à penser des choses comme ça. Mais quand on est avant et après. Là, on peut voir quelle est la chose la plus importante. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça? Deuxième image qu'on a expliquée la semaine dernière. Israël, Alou Bemarchava, bonsoir. Israël, Alou Bemarchava. Le peuple juif n'est pas dans la réalisation du projet. Ils étaient dans le projet d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que le peuple juif, exactement, Chazak, c'est un but en soi. C'est pas un moyen. Le fait qu'un juif existe, c'est déjà un but en soi. Donc ça, c'est une notion qu'on devra revenir dessus plus tard, parce que je suis conscient qu'il y a une notion qui est encore relativement abstraite à ce stade-là. Donc on reviendra dessus, Bezrat Hashem. En tout cas, ce qu'on a compris, premier élément, Dieu s'est investi en nous. Deuxième élément qu'on a expliqué, c'est que c'est pas seulement qu'il s'est investi en nous, c'est que nous sommes le projet de Dieu, nous sommes le but du projet. Le fait même qu'on existe, c'est déjà un but pour Akadosh Baruch Hu. D'accord, on reviendra dessus. Troisième élément, on s'est arrêté sur ça la semaine dernière. On a dit que dans beaucoup d'endroits dans la Torah, on est comparé aux enfants d'Akadosh Baruch Hu. Si la Torah nous compare aux enfants d'Akadosh Baruch Hu, ça veut dire qu'il y a une analogie entre un enfant et nous par rapport à Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'on doit essayer d'analyser le rapport qu'il y a entre un fils et un père. Et quand on va analyser le rapport qu'il y a entre un fils et un père, on va comprendre le rapport qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et nous. Parce que c'est pas par hasard s'il y a plusieurs reprises dans la Parasha Shemot, dans le Chumash Varim à plusieurs reprises. On voit que Akadosh Baruch Hu nous dit, vous êtes mes enfants. Béné Israël, vous êtes béni, Béhori Israël. Il dit à Kadosh Baruch Hu que les enfants d'Israël, c'est ses enfants. C'est quoi un enfant?
Oui, là, pas notre mère plutôt que notre père.
Bonne question, on arrivera plus tard. Mm-hmm. Très bonne question, très très bonne question. Il faut expliquer la différence entre le père et la mère après pour répondre à cette question. Alors, on y arrivera dans le chapitre d'après, c'est une très bonne question. Donc, je suis en train d'expliquer qu'on a dit dans beaucoup d'endroits dans la Torah, on voit qu'on compare, le Ham Israël par rapport à Kadosh Baruch Hu comme un fils par rapport à son père. Pourquoi un fils par rapport à son père? Alors on a donné une image très simple. On a dit le fils d'où il vient à la base par rapport à son père. Il vient d'une goutte. C'est une goutte que le père a donnée. Ça peut être même une goutte qui est infime, qui est toute petite. Tout vient de là. Maintenant, dans cette goutte, tout était dedans. Maintenant après, ça va rentrer dans le ventre de la maman et la maman va travailler cette goutte-là. Cette goutte de sperme, hein, d'accord? Donc elle va travailler cette goutte. Et elle va faire avec ça un cerveau, un cœur, des pieds, des doigts de pied, les ongles du doigt de pied. Ça veut dire tous les éléments, même l'élément le plus, entre guillemets, insignifiant du corps, le plus reculé du corps, d'où il vient? Il vient de cette goutte-là. C'est le même ADN, c'est la même chose. Pourquoi il explique ça? Parce qu'avec cette image, on comprend beaucoup de choses. On comprend le fait que, même si on va dire que dans le Ham Israël, il y a plusieurs catégories de Neshamot. Il y a des tzadikim, il y a des gens plus importants, moins importants, il y a des plus grandes neshamot, des plus petites neshamot. Comment tu peux dire que tous on est un morceau d'Akadosh Baruch Hu, on est une partie intégrante d'Akadosh Baruch Hu? La réponse est dans l'histoire du bébé. Que dans l'histoire du bébé, je peux pas venir et dire maintenant que mon ongle il vient pas de mon père. Ça peut pas marcher. Non. Tout mon corps, jusqu'au dernier détail, il vient de mon père. D'accord? Et mon fils, jusqu'au dernier détail, il vient de moi. C'est pas parce que il y a un détail qui est plus important, moins important, que ça veut dire qu'il n'est pas en moi.
Du père et la mère aussi.
Une partie de la mère aussi.
Une partie de la mère aussi. Mais là, le rôle de la mère, c'est uniquement de développer ce que le père a donné. Bonne question. C'est une très bonne question. C'est sa question. Mais là, on revient à sa question. Quel est le rôle de la mère? Très bonne question. Là, pour l'instant, on va s'arrêter sur le père. Le père, lui, il a donné une goutte. Dans cette goutte, il y a l'essence. Tout est dedans. Après, on va développer. La mère va développer et on va avoir plein de membres, des membres plus importants, moins importants. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a un membre qui est moins important comme l'ongle du doigt de pied? Est-ce que ça veut dire qu'il vient pas du père? Tout vient du père. Il n'y a pas de différence. C'est une essence qui dit que tout vient du père. Pourquoi il a expliqué ça? Pour nous dire qu'en vérité, peu importe la qualité du juif, peu importe, même si un juif il dit « moi je suis pas à la tête, moi je suis pas au cœur, moi je suis le doigt de pied du peuple juif ». Parce qu'on a expliqué la semaine dernière l'image du Harizal, que le peuple juif c'est comme un grand corps. Même si je veux dire que moi je suis le petit doigt de pied du Ham Israël, celui qui te casse les pieds là, le petit doigt de pied du Ham Israël, ça change pas. En lui, il y a les gènes, il y a l'ADN d'Akadosh Baruch Hu. Donc il y a pas de différence. Même s'il y a des différences dans la forme, mais dans le fond, l'image de l'enfant nous a fait comprendre que n'importe quel juif est une partie intégrante d'Akadosh Baruch Hu. Mais et là, on s'est arrêté sur ça la semaine dernière. Là, on arrive à un sujet très important. On a expliqué que dans le corps. Ce que l'a dit le Harizal, que les Neshamot c'est comme un grand corps. Et que dans ce grand corps-là, il y a des Neshamot qui sont à la tête, des Neshamot qui sont au cœur, des Neshamot qui sont aux pieds. Et on a expliqué que ça va selon les générations. Par exemple, les générations de l'époque de la Gemara, ils étaient plutôt vers la tête. Et après, plus on descend, et nous on a des Neshamot qui sont au niveau du pied.
Le talon.
Mais on a expliqué que même dans le talon lui-même, t'as ceux qui sont en haut du talon, ceux qui sont en bas du talon. Qui est en haut de l'échelle? Les tzadikim. D'accord? Les tzadikim, eux, ils sont en haut de l'échelle. Alors maintenant, ce qu'on va expliquer dans le cours d'aujourd'hui, c'est comment ça se fait qu'on voit beaucoup dans la chassidout, et pas que dans la chassidout, quand on voit en vérité, c'est depuis Moshe Rabbeinu, on voit l'importance de s'attacher à un tzaddik. L'importance d'être annulé à Moshe Rabbeinu, l'importance d'être attaché à un tzaddik. Et là, il va expliquer qu'en vérité, l'image de l'enfant nous explique ça. Parce que rappelez-vous, dans l'enfant, qu'est-ce qu'on a dit? L'enfant, ça peut être le doigt de pied, ça peut être l'angle du doigt de pied, tout est lié à son père. Et tout est lié à son père, et tout est lié à son cerveau. Vous savez que notre cerveau maîtrise tout. On sait très bien que dans notre corps, le cerveau maîtrise tout. Si on dit que les tzadikim, qu'on les appelle Roche, Roche Béné Israël, c'est quoi Rabbi? C'est les initiales de Roche Béné Israël, à la tête des Béné Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, un Rabbi, c'est comme le cerveau. Est-ce que maintenant un membre peut décider, moi je veux me passer du cerveau, moi je suis un pied, moi je veux marcher, moi j'ai pas besoin du cerveau? Non, c'est impossible de s'en passer. Ça, même pour faire ta fonction de base, t'es obligé de passer par le cerveau. Ça, on va développer cette notion-là bien longuement. Donc aujourd'hui, on aura deux thèmes. Premièrement, le rôle des tzadikim. Deuxièmement, le rôle des parents pendant la conception de l'enfant et quel impact ça aura sur la neshama. Donc deux thèmes pour aujourd'hui. Et avec ça, on aura Bezrat Hashem couvert le sujet de l'âme divine. Après, on commencera à rentrer dans les détails. Mais au moins, on aura couvert la base. Donc je suis à la page 12. Ve'im kolze odena. Vous avez, pour ceux qui ont le Tania en français, c'est page 65, au milieu de la page. Ve'im kolze. Bonsoir. Ve'im kolze. Odena kshurot umyuchadot veyichud nifla veatzum emautan veatzmutan arishon sheiyam shechat chokma ila. Qu'est-ce qu'on voit dans l'histoire du fils par rapport au père? Que même l'ongle du doigt de pied, on a dit, reste toujours attaché à son père, reste toujours attaché au cerveau. Alors, pourquoi il nous amène ça ici? Il nous dit comme ça. Ki enikat vechayut nefesh ruach uneshama shel amei haaretz. Car, de la même manière que cet ongle du doigt de pied, d'où il prend son énergie? Du cerveau, c'est le cerveau qui envoie son énergie. Et bien de la même manière, nos neshamot en nous, d'où on tire notre énergie? On tire notre énergie des tzadikim. Alors il faut que j'explique un peu de quoi il parle ici quand il parle des tzadikim. Quand je parle des tzadikim ici, je ne suis pas en train de parler des tzadikim dans le sens... Il faut que j'explique un petit peu cette notion-là. Rabbi, il y a un rav. Un rav, c'est une personne à qui on va demander la halakha. D'accord? Il y a aussi un moré, ou un mélamed, un enseignant. Un enseignant, c'est une personne chez qui on va apprendre, par exemple, à étudier la Gemara, la Mishnah. On va apprendre à étudier. Mais c'est quelqu'un qui a une fonction spécifique. Donc il va j'ai une question de halakha, je vais lui demander. Ou bien... j'ai un problème, j'ai pas compris quelque chose dans la Mishnah, dans la Gemara, dans le Zohar, je vais lui demander. Mais c'est un enseignant. C'est un enseignant, mais il a rien à voir avec ma neshama. Ma neshama, je veux dire, il a rien à voir avec la gestion de ma neshama. Là, on parle pas du tout de ça. On parle d'un rabbi. Rabbi, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec la connaissance de la Torah.
Rabbi et rab, c'est pareil.
J'explique pas du tout. Le rôle d'un rav, c'est de répondre à des questions de halakha et c'est d'enseigner la Torah. Le rôle d'un rabbi n'est pas d'enseigner la Torah. D'ailleurs, on avait très souvent dans des communautés chassidiques, et pas que chassidiques, des communautés dans lesquelles le tzaddik était moins fort en Torah que le rav de la ville. C'était très fréquent. Et pourtant, alors tu me dis c'est pas logique, et pourtant, le rav de la ville respectait le tzaddik et il le vénérait. On l'a vu dans beaucoup d'endroits, que ce soit chez les Sfaradim, chez les Ashkenazim, dans beaucoup d'endroits, le tzaddik, d'accord, n'a pas spécialement écrit de livre, n'était pas... Il est bien sûr qu'il connaissait la Torah, il connaissait le Shulchan Aruch, la Gemara, etc. Mais il y avait un rav, le roi Shiva, il était beaucoup plus fort que lui en Torah. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'elle a de particulier le tzaddik? Parce qu'un tzaddik, c'est pas quelqu'un qui connaît la Torah. C'est pas ça ce qui le fait tzaddik. Ce qui le fait tzaddik, c'est qu'il a une neshama particulière, une neshama qui est comme le cerveau par rapport au reste du corps. Et de la même manière que le cerveau domine, et que c'est le cerveau qui envoie l'énergie à tout le corps, et que si le cerveau ne fonctionne pas, le corps entier ne fonctionne pas, et qu'aucun membre ne peut décider d'être indépendant, et bien de la même manière, aucune personne ne peut décider d'être indépendant, de dire « moi j'ai pas besoin d'être tzadikim ». Ça c'est une base de la chassidut qu'on va développer, aujourd'hui. Personne peut venir et dire « moi j'ai pas besoin de passer par un tzadik ». Après, le choix du tzadik, chacun peut choisir. Vous rappelez l'image qu'on a expliquée la semaine dernière, il y a beaucoup qui me l'ont répété cette semaine, l'image de l'arbre. Après, je peux décider de prendre la branche que je veux, c'est pas un problème ça. L'image de l'arbre avec les neshamot, hein. Vous rappelez qu'on a expliqué la semaine dernière. Ça, c'est mon problème. Mais je peux pas décider de me passer d'un tzaddik, parce qu'un tzaddik, c'est quoi? Le tzaddik, c'est comme le cerveau. Je peux pas décider de me passer d'un cerveau. C'est obligatoire. Donc, encore une fois, le tzaddik, c'est pas forcément une personne qui est connaisseur en Torah. Il va connaître les choses de base, mais c'est pas son poste. Quand on va chez un tzaddik, on va pas pour qu'il nous répète un dvar Torah. C'est pour ça que des fois, il y a des tzaddikim qui viennent, et les gens, ils vont les voir. Et ils s'attendent à avoir un speech énorme qui va les booster. Et ils sont déçus. Ils disent, c'était nul. Pourquoi c'était nul? Parce que ça dépend de ce que tu attendais. Si tu attendais d'avoir un speech, c'est pas un tzaddik qu'il faut aller voir. Il faut aller voir un rav, un conférencier, un maître de conférence qui va aller te parler. Mais quand on va voir un tzaddik, c'est pas pour ça qu'on va le voir. On va le voir pour tirer de l'énergie pour Maneshama. C'est comme un membre du corps qui va aller dans le cerveau pour aller tirer de l'énergie pour qu'il puisse vivre. Donc ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, chacun sa fonction. Accessoirement, un tzaddik peut être aussi un grand Torah. Comme, je me permets de donner l'exemple, comme par exemple on a vu chez notre rabbi, on a vu que c'était aussi un gaon en Torah. Mais c'est... Même s'il n'était pas un gaon, ça aurait pu être un tzaddik. C'est accessoire. On a vu plein d'histoires dans le monde hassidique et partout, des gens qui n'étaient pas spécialement grands en Torah, qui étaient tzaddik. C'est ce qu'il veut expliquer ici. Donc dans les mots. Ce qu'il veut nous montrer ici, c'est que le rôle d'un tzaddik, c'est d'être un petit peu le Rosh Bene Israël. Ça veut dire d'être le cerveau, celui par lequel on est obligé de passer pour prendre de l'énergie.
C'est inné,
exactement. Alors, très bonne question. Bonne question, toi, aujourd'hui. Hein. Alors, c'est, en vérité, ça, on aura la réponse dans le chapitre 8. Dans le chapitre 8. Et ça, c'est avant la bourra. On verra la réponse dans le chapitre 8, qu'effectivement, c'est inné. Et effectivement, il ne faut pas chercher à le devenir, parce que c'est soit tu l'as, soit tu l'as pas. Et en général, la majorité des gens, bien sûr, ne l'ont pas.
Mais, c'est quoi leur mérite, alors?
C'est alors. Bonne question. Donc, est-ce que c'est peut-être lié aux pensées que les parents ont eues pendant la conception? Est-ce que c'est lié au mérite des parents? Est-ce que c'est lié au mérite des grands-parents? Est-ce que c'est un hasard? On va arriver tout de suite. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que c'est inné. C'est que être tzaddik, c'est inné. Ça veut dire quand ta neshama, elle est créée, dès l'instant de ta naissance, tu es déjà positionné dans l'arbre, dans le corps du Ham Israël. T'es déjà positionné.
Est-ce que tu peux mal tourner quand même?
Ça change, ça n'a rien à voir. Mais bien sûr, tu peux mal tourner. Ça n'a rien à voir avec les actions. Ça n'a rien à voir avec les actions. Je parle du niveau de la neshama. On peut avoir des gens qui ont une neshama, qui concrètement, ils sont rachats. Mais il va avoir un tzaddik, le tzaddik va dire, toi, t'es une grande neshama. Il attend, il dit, ouais. Et après, il a une grande neshama. Oui, il a une grande neshama. Parce que la neshama, on la juge pas par rapport, est-ce que c'est un grand Torah? Est-ce qu'il a fait beaucoup de mitzvot? Est-ce qu'il fait pas des averot? Ça, c'est un détail. C'est très important. Mais c'est pas comme ça qu'on juge une neshama. Une neshama, c'est inné. Comme tu as bien dit, c'est inné. Ça veut dire que tu peux avoir des gens qui ont des très grandes neshamot, mais que c'est complètement gâché. C'est un talent qui est complètement gâché. Ils ont rien fait avec. D'un autre côté, t'as des gens qui ont une toute petite neshama, avec très peu de talent, mais ils ont fait des merveilles avec ça.
Tu dis, c'est inné. C'est-à-dire que quelqu'un, il peut pas devenir tzaddik au cours de
sa vie. C'est pas, ouais.
Le vrai tzaddik, non.
Mais il y a des lignées de tzaddik.
Le vrai tzaddik, alors encore une fois, ce que je dis le vrai tzaddik, on va expliquer dans la suite, c'est une très bonne question, dans la suite, quand je dis la suite, c'est chapitre 8, 9 et 10, donc on y arrive bientôt, on expliquera qu'est-ce que c'est un vrai tzaddik, pas une personne qui se comporte bien, qui fait pas d'avérot. Un vrai tzaddik, c'est une personne qui a tellement tué son yitzhara à tel point qu'il a aucune pulsion négative. Si tu penses qu'un jour ça t'arrivera, sache que 99,99% des gens, c'est impossible. Ils auront toujours des pulsions négatives, mais leur rôle c'est de le repousser. Après, chacun à son niveau, ça sera peut-être pas les mêmes pulsions à chaque fois. Mais le tzaddik, c'est celui qui, à un moment, il y a on, off. Ça y est, off, il y a plus.
Zéro. S'il n'a pas de pulsions
négatives, il s'est arnaqué. Il s'est ça veut dire quoi?
C'est un goutte.
Moi, je pose une autre question. Dans ce cas-là, à quoi il sert? À quoi ça sert, sa vie? Quel est son but? On va développer tout ça. Tout ça, on va développer. À quoi il sert? Nous, on a toujours appris que notre but, c'est de se battre contre les Yetzer Hara. Mais s'il n'a pas Yetzer Hara, alors à quoi il sert ici? À quoi il sert, le tzaddik? On expliquera tout ça. On expliquera Bezrat Hashem tout ça. On expliquera comment chaque personne a un but. Le tzaddik a son but. Nous avons un but. Chacun a son but. Il y a quoi?
Il y a un clignotant pour dire c'est un, ou il y a une lumière pour dire c'est un tzaddik.
On verra plus tard que dans la suite, ça c'est dans le chapitre 8, d'accord? Que on verra, non mais c'est très simple, on verra que tu peux avoir deux personnes, monsieur Reuven et monsieur Shimon. Les deux, même cursus, même parcours, mêmes études, d'accord? Ils sont mariés avec le même style de femme, même style de rap, même chose. Et pourtant, un, monsieur Reuven, au bout de 25 ans, pac, il devient tzaddik. Monsieur Shimon, il va rester toute sa vie le même.
Il n'y a pas un clignotant?
Non, il n'y a pas. Non, pas spécialement.
Ouais,
moi, en tout cas. Parce qu'il est déjà au cerveau.
Tout le monde est servi si le type a réussi à récupérer une neshama d'un tzaddik, il le sait à un moment donné.
100%, bien sûr qu'il le sait. Il le sent. Il sent qu'il n'y a plus de pulsion négative. Le jour où tu n'auras plus de pulsion négative du tout, tu comprendras que tu es un tzaddik.
Tu rajoutes après.
Tu m'indiques et on te fera un bureau, Bezrat Hashem.
Ah oui.
On te fera un bureau, on viendra te voir.
Mais...
Eh ben tu vois, les billets de 100, ils t'intéresseront plus quand tu seras tzadik. Tu diras, mais quelle différence entre un billet de 500 et un billet de 100? Je vois pas la différence. On continue. Donc, ce qu'il explique ici, l'Admor HaZaken, il dit que l'énergie de l'âme, de la, l'énergie de notre neshama, de la même manière que l'énergie du pied, du cœur, de la main, viennent d'où? Du cerveau. C'est le cerveau qui envoie l'énergie et qu'on peut pas se passer du cerveau. De la même manière, dans chaque génération, on a dit, il y a ceux qui sont en haut, ceux qui sont en bas. Ceux qui sont en haut, c'est les tzadikis, mais on est obligé de passer par eux pour avoir de l'énergie. On va pas chez eux pour étudier la Torah. On va pas chez eux pour qu'ils nous encouragent à faire des mitzvot. On va pas chez eux pour qu'ils nous... Non. On va chez eux pour prendre de l'énergie. Après, le tzadik a lui de décider comment il t'envoie de l'énergie. T'as des tzadikim qui vont te choisir d'envoyer de l'énergie au travers d'un encouragement avec la main. T'as un tzadik qui va choisir de t'encourager au travers d'un Dvar Torah. T'as un tzadik qui va choisir de t'encourager au travers d'un nigoun, une chanson. Mais ça c'est technique, c'est le problème du tzadik. Mais sa fonction, c'est quoi? C'est d'énergiser, de mettre de l'énergie dans ta neshama, comme le cerveau envoie de l'énergie dans le corps. Alors maintenant, on va développer un peu plus cette notion des tzadikim. Donc là, on a la page suivante. Ubaze yuvan ma'amar razal. Avec ça, on va comprendre ce que les chachamim ont dit. Al pasuk ou dov kabo. C'est écrit dans la parasha Nitzavim, c'est pas une invention de la chassidoute, ça. C'est écrit, la Torah nous demande à un moment, il dit, Moshe Rabbeinu, il dit, mais qu'est-ce qu'Hachem te demande? Hachem te demande une chose. Il te demande de te coller à lui. Alors, la Gemara, elle pose la question entre Tektuvot, elle dit, mais comment on peut se coller à Dieu? Dieu n'est pas physique. Parce que coller dans le sens, coller quoi, coller, comme attraper quelqu'un. Donc la Gemara, elle pose la question. La Gemara dit, mais comment tu peux être, non, c'est pas écrit s'attacher. S'attacher, c'est les hit kasher. Là, on dit les hit d'abek. D'évêque en hébreu. C'est quoi d'évêque pour les hébraïsans? C'est quoi d'évêque en hébreu? C'est de la colle. Te coller à Dieu. Comment tu veux que je me colle à Dieu? Je peux me coller à quelqu'un, je peux pas me coller à Dieu. C'est la Gemara qui pose la question. C'est la Gemara qui pose cette question que je dis. Les hit kasher, c'est quand je me lie avec l'esprit de quelqu'un. Mais les hit d'abek, c'est quand je me colle à quelqu'un. Comment je peux te coller à Dieu? Mon cher Menu dit, collez-vous à Dieu. Comment tu veux que je me colle à Dieu? Donc la Gemara dit comme ça, elle dit al pasuk dov kabo, she kol adavek betalmidei chachamim, qu'en réponse à cette question, la Gemara dit est-ce qu'on peut se coller à Kadosh Baruch Hu? Qu'est-ce que répond la Gemara? La Gemara dit kol adavek betalmidei chachamim, que tout celui qui s'attache à les talmidei chachamim, ma'ale alav akatuv keilu nidbak bashrina mamash. La Torah lui considère comme si qui s'attache mamash à Kadosh à la shrina. Comment on peut dire ça? Quel rapport? Maintenant on comprend. C'est qu'en vérité, le rôle d'un rave, c'est pas seulement quelqu'un qui connaît plus que toi. C'est pas seulement quelqu'un qui connaît plus la halakha, plus la mishnah, plus la Torah. Ça, c'est un enseignant, ça. C'est très important, mais c'est un enseignant. C'est pas de ça qu'on parle ici. Quand on parle des talmidei chachamim dans le sens qu'on étudiait dans la Gemara, c'était des gens qui avaient une neshama énorme. Une neshama énorme à tel point que quand tu te colles à eux, c'est comme le membre qui va aller chercher son énergie dans le cerveau, c'est-à-dire c'est comme si tu te colles à Kadosh Baruch Hu.
Ils avaient des pulsions.
Ils avaient? J'y arrive. Quelle idée de Vika et Talmidei Chachamim, Kshurot Nefesh Ruach Uneshama Shel Amei Haaretz. Car, en se collant à un Talmid Chacham, on verra qu'il y a plusieurs catégories de tzadikim. Car, en se collant au Talmid Chacham, Kshurot Nefesh Ruach Uneshama Shel Amei Haaretz, Umyuchadot Vemautan Arishon Vesherchem Shebechokhma Ilha, Sheu Itbarech Vechokhmato Echad Veu Amada. Ça veut dire comme ça. De la même manière qu'on a expliqué que bien que le corps entier vient de la goutte du papa, mais on a expliqué quand même qu'il y a certains membres qui sont plus liés, comme par exemple le cerveau. Le cerveau, c'est un élément très important chez l'enfant. Et c'est l'élément le plus important. Qu'est-ce qu'on te dit? De la même manière, nous venons tous d'Akadosh Baruch Hu sans aucune différence. Ça veut dire peu importe que je m'attache à un tzadik ou que je m'attache pas à un tzadik, je suis quand même un fils d'Akadosh Baruch Hu, je suis lié à Akadosh Baruch Hu. C'est pas parce que je m'attache pas à un tzadik que je suis pas un fils d'Akadosh Baruch Hu. Comme le doigt de pied, qui quoi qu'il arrive, quoi qu'il fasse, il fait partie, il a en lui l'ADN. Ça c'est clair. Mais nous on veut maintenant que cet ongle vive. On veut qu'il ait une énergie qui vive, qui puisse bouger. Pour ça, t'es obligé de passer par le cerveau. C'est quoi le cerveau? C'est quand on va se coller à la shrina. C'est comment on va se coller à la shrina? Quand on va se coller au talmidei chachamim de la génération. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant si une personne ne veut pas s'attacher à un talmidei chacham? Si une personne dit, moi je suis autonome. Moi j'ouvre les livres, je me débrouille tout seul. Encore plus que ça. T'as des fois des gens qui se révoltent contre les tzadikim. Qui se moquent des tzadikim. Alors comment ils vivent ces gens-là? Non, sans arriver là. T'as des gens qui veulent pas s'attacher à des tzadikim. Ils disent, moi, je suis autonome. T'as des gens encore plus que ça, qui se battent contre les tzadikim, ils se moquent des tzadikim. Or,
il y en a qui se prennent pour les tzadikim.
Ah, c'est encore pire. Alors, qui se prennent pour les tzadikim. Alors, comment ça marche? Comment ça marche dans ce cas-là? Puisqu'on a expliqué, parce que dans l'image du corps, c'était très clair. C'était peu importe la partie du corps que tu es quand même lié. Tu es quand même lié. Il y a quand même l'ADN en toi. Mais que si tu veux vivre, il faut quand même que ça passe par le cerveau. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons par exemple, t'as un juif. C'est dans le Ham Israël, dans le tableau du Ham Israël, c'est la main. Et il décide, je veux pas passer par les tzadikim. Donc c'est comme s'il y a une main qui veut se détacher du cerveau. Donc normalement, qu'est-ce qui devrait se passer avec cette main? Ben, elle devrait mourir. Elle devrait se désintégrer. D'accord? Mais si elle décide de ne plus prendre des ordres du cerveau, elle dit j'écoute plus le cerveau, ça peut arriver. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Elle fonctionne plus. Alors comment ça marche? Comment ça marche? Écoutez bien ce qu'il va dire ici. Il va dire que les tzadikim, dans leur bonté, s'occupent même de ceux qui se moquent d'eux. C'est énorme ce qu'il va dire.
Ça l'est, hein.
Comme le cerveau. Le cerveau, même si la main, elle va lui dire « je veux pas de toi », le cerveau, il va continuer à envoyer des ordres. Après, si tu bloques, c'est ton problème. Mais moi, je continue à envoyer des ordres. Je continue à envoyer de l'énergie. Ça, il faut être sadique pour comprendre ce qu'il est en train de dire ici. Il y a qu'un sadique qui peut comprendre ça. Ce qu'il est en train de dire, parce que nous, on comprend pas. Dis quoi, quelqu'un il te crache dessus, tu lui dis « je vais encore continuer à essayer de te donner ». Ça y est, arrête-toi. Ne lui rends pas ce qu'il t'a dit, mais au moins, ne fais pas comme si de rien n'était. Qu'est-ce qu'il dit ici dans les mots, dans le crochet ici?
Dans l'image du père et du fils, c'est où la place du tzadik?
C'est dans l'image du père, non. Le père, c'est Akadosh Baruch Hu. Ouais. Le fils, c'est le corps entier. Dans le corps entier, il y a plusieurs membres. Nous, on est, on va dire, un membre qui est en bas. Le tzadik, c'est le cerveau. Donc, dans l'enfant qui est né, le pied a besoin du cerveau. Donc, le tzadik et moi, nous sommes les deux une créature d'Akadosh Baruch Hu. Nous sommes comme l'enfant. Mais dans l'enfant, il y a le cerveau et il y a les autres membres. Et les autres membres sont obligés de passer par le cerveau. Tu comprends?
Le cerveau est obligé de passer par les autres membres.
Tu as raison. Le cerveau a besoin des autres membres pour arriver à ses buts, pour arriver à ses fins. Par exemple, on dit que Moshe Rabbeinu, quand il parle des Bnei Israël, il dit les 600 000 pieds parmi lesquels je me trouve. Alors, pourquoi il nous appelle comme ça, les 600 000 pieds? Et le Zohar pose la question. Le Zohar pose la question, il répond comme ça, il répond très simple. Il dit parce que de la même manière que dans un corps, tu as une tête et des pieds, et que même si la tête décide ce qu'elle veut, s'il n'y a pas le pied, on ne peut pas avancer. D'accord? Imagine-toi que la tête, elle dit, on va là-bas. Si tu n'as pas le pied qui va marcher, on n'arrivera pas. La tête, elle a qu'à crier ce qu'il veut. Si le pied n'avance pas, il n'avancera pas. Ben, de la même manière, le tzadik a besoin des Bnei Israël pour l'aider à avancer. Ça veut dire que tout le monde est important, personne n'est indispensable dans ce plan. Personne ne peut dire, moi je suis juste un petit doigt de pied, je ne suis pas important. Comme j'ai dit la semaine dernière, pour ceux qui n'étaient pas là, on sait que même l'ongle du doigt de pied, le jour où il décide de te faire mal... Pourtant, mais c'est rien, c'est un ongle. D'accord? Vous savez, normalement on dit un ongle, c'est quoi? Un ongle, c'est quelque chose dans lequel il y a très peu de vitalité. La preuve, c'est quoi? C'est que quand tu le coupes, t'as pas mal. Alors qu'une partie de la chair, quand on la coupe, on a mal. Pourquoi quand je coupe les ongles, j'ai pas mal? Pourquoi quand je coupe les cheveux, j'ai pas mal? Parce qu'il y a très peu de vitalité dedans. Alors en plus, l'ongle du doigt de pied, tu te dis, mais attends, mais ça sert à rien. Eh ben, quand il décide de te faire mal...
C'est un signe de vitalité quand il pousse.
Bien exactement, parce qu'il pousse.
C'est un signe de vitalité.
Il pousse, et quand il y a des problèmes, ça dérange tout le monde. Donc personne ne peut dire, moi je suis un petit juif qui est assis dans le coin, je dérange personne, moi je fais mes problèmes, et moi je fais mes bêtises, et laissez-moi tranquille, c'est pas le problème de tout le monde. Ça marche pas comme ça. Même si c'est le petit doigt de pied, dès qu'il y a un problème, c'est tout le monde qui est concerné. C'est clair. Seulement, alors c'est quoi le problème? On est obligé de passer par les tzadikim. Qu'est-ce qui se passe si on ne veut pas passer par un tzadik? À plus forte raison, si une personne décide de se révolter contre les tzadikim, dans les mots, ve'apochim, les fauteurs, ou mordim et talmidei chachamim, et ceux qui se révoltent contre les talmidei chachamim, alors ça veut dire quoi? C'est comme un membre qui se révolte contre le cerveau? Mais un membre qui se révolte contre le cerveau, il ne peut pas fonctionner. Yenikat, nefesh ruach uneshama shelahem prinat choraim shel nefesh ruach venishma talmidei chachamim. Les tzadikim continuent à s'occuper d'eux, mais il y a quand même une différence. C'est que, il y a des gens à qui tu donnes, alors il faut que j'explique d'abord une différence qu'il dit ici, une nuance. Il y a Panim et il y a Ahoraim. Quelqu'un me demande quelque chose, je peux lui donner de face, ça veut dire avec le sourire, et je peux lui donner comme ça, je lui jette par derrière. Quelle est la différence? La différence c'est que quand tu lui donnes de face, tu lui montres que tu veux lui donner. Quand tu lui donnes à l'arrière, tu lui montres que tu n'as pas le choix, mais que tu lui donnes quand même. Qu'est-ce qu'il veut expliquer ici? Qu'en vérité, normalement, ceux qui fautent contre les talmidei chachamim, normalement, ces personnes-là, ils devraient cesser d'exister. Et les tzadikim ne peuvent pas leur donner leur face, parce que c'est la source qu'ils ont fait. On est obligé de faire des limites. Alors, comment ça marche? Ces gens-là, les tzadikim leur donnent du prinat achoraim, à l'arrière. Maintenant, sur ça, le Baal Shem Tov, il disait que quand même, on voit que les vrais tzadikim, même s'ils ont devant eux un vrai rachat, ils vont quand même l'accueillir avec un grand sourire. Ça, c'est un tzadik. Et le Baal Shem Tov, il avait cette phrase magnifique qui disait, les petits tzadikim aiment les petits réchaïm, les grands tzadikim aiment les grands réchaim. Et les petits joueurs, ils vont chercher les petits joueurs. Les grands joueurs vont chercher les grands joueurs. C'est très très fort comme phrase. Ça veut dire que, c'est-à-dire chacun son calibre. Chacun son calibre. C'est ce qu'il dit ici.
Le responsable, c'est toujours le cerveau.
Toujours. Le responsable, c'est toujours le cerveau. Mais quand t'as un membre qui décide de ne plus écouter les ordres du cerveau, qu'est-ce qui se passe? Il arrête de fonctionner.
D'accord. C'est-à-dire maintenant, moi je suis pas un tzadik.
Oui.
Qu'est-ce qu'on peut me reprocher?
Rien du tout. T'es très bien. T'es parfait comme tu es. T'as ta fonction dans le corps. T'as ta fonction. Tu peux être la main, la tête, le pied, le cœur. T'as ta fonction.
Attends, on nous reprochera des choses.
Qu'est-ce qu'on veut dire? Non mais on te reprochera pas de pas être un cerveau. C'est pas ton rôle.
On peut rien me reprocher du tout.
Bien sûr, nous reprocher. Si, parce que le rôle de la main, c'est quoi? Le rôle de la main, c'est quoi? C'est quand le cerveau lui envoie des ordres, elle doit bouger. Ça, c'est son rôle. C'est qu'elle doit écouter, elle doit suivre les ordres et faire ce qu'il faut faire.
Mais en aucun cas, la main, elle peut bouger sans l'accord du cerveau.
Mais la main, bien sûr que le cerveau envoie des ordres, la main doit écouter. Qu'est-ce qui se passe quand il y a une paralysie? C'est-à-dire que le cerveau envoie des ordres et le membre ne suit pas. Donc il peut y avoir une paralysie du cerveau, ça veut dire Dieu préserve, c'est-à-dire que le membre est en bonne santé, mais le cerveau n'envoie plus des ordres. Mais il peut y avoir une paralysie du membre, c'est-à-dire que le cerveau envoie des ordres, le cerveau est en parfaite santé, il envoie des ordres qui ne sont pas écoutés. Comme, comment ils appellent ça, le stroke, comment ils appellent ça quand on... ça veut dire qu'il y a une notion de, le cerveau envoie des ordres qui ne sont pas respectés. Donc dans le corps chez nous, comment ça marche? Eh ben il meurt. La partie qui ne veut pas écouter, elle meurt. Ça ne tient pas. Eh ben, chez les tzadikim, c'est pas comme ça. Même une personne qui est contre les tzadikim, le tzadik, il pense à lui. Il dit, celui-là qui s'est révolté contre moi, je pense à lui et je l'envoie de l'énergie parce que sans moi, il peut pas vivre. Le tzadik, c'est la tête. Le tzadik, c'est le cerveau. D'accord? Bon. Donc, maintenant,
donc,
oui.
Manu, non seulement il y a une relation de dépendance mutuelle entre les différents organes qui sont le cerveau.
Exactement.
Mais également le béni Israël simple, standard et un tzadik.
Exactement. Ça veut dire, la notion qu'on a expliquée la semaine dernière, je vais répéter encore une fois parce que je me rappelle que quand j'avais étudié ça, c'était une notion qui n'était pas facile à comprendre. La notion qu'on a expliquée la semaine dernière n'est pas du tout contradictoire avec ce qu'on a expliqué aujourd'hui. La semaine dernière, on a expliqué que, étant donné que dans le fils, le doigt de pied et le cerveau, les deux viennent de la goutte de sperme, ça veut dire que de la même manière chez nous, peu importe que tu aies une grande neshama ou une petite neshama, tu es une partie intégrante d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Donc, on aurait pu comprendre de la semaine dernière que ça veut dire qu'on n'a pas besoin des tzadikim. Faux, c'est pas ça. Ce qu'on veut expliquer la semaine dernière, c'est que peu importe la forme que tu as, tu fais partie, tu es un fils d'Akadosh Baruch Hu et en toi, il y a de l'ADN d'Akadosh Baruch Hu. Ce qu'on veut expliquer aujourd'hui, on va pousser un peu plus loin l'image du corps, que de la même manière que dans le corps de l'enfant, il y a plusieurs membres et qu'il y a des membres qui ont besoin plus que d'autres membres, comme par exemple, les membres ont besoin du cerveau, les membres ont besoin du cœur, on parlera après du cœur aussi. Donc, de la même manière, ceux qui sont pas tzadikim ont besoin des tzadikim. Le tzadikim, c'est comme le cerveau. Après, on parlera du cœur. Parce que le Rambam, il dit que le Meler, le roi, c'est comme le cœur d'Am Israël. C'est parce qu'on a parlé du cerveau. Le cerveau, il envoie des ordres. Et c'est quoi le cœur? Le cœur d'Am Israël, c'est quoi? Le Rambam, il dit qu'aujourd'hui, il n'y a plus le cœur. Le cœur, c'était à l'époque quand on avait les rois. Pourquoi? Parce que c'est quoi le rôle du cœur? Qu'est-ce qu'il fait, le cœur? C'est quoi son rôle? C'est quoi sa fonction dans le corps?
Il pompe.
Et il envoie. Et où il va ce sang? Dans le corps entier, il circule dans le corps entier. C'est exactement le rôle d'un roi. C'est quoi le rôle d'un roi? Le rôle d'un roi, c'est de gérer le pays pour s'assurer que tout est redistribué au bon endroit. Donc son rôle, c'est le cœur. C'est s'assurer que tout est redistribué. C'est pas forcément lui qui envoie les ordres. C'est pas forcément, comme dans un système pyramidal, c'est pas forcément lui qui envoie les ordres. À la limite, le roi, des fois, il envoie très peu d'ordres. Lui, on vient le voir, on vient le consulter seulement quand il y a des situations complexes. Il n'envoie pas des ordres, c'est pas un cerveau. Le cerveau, c'est lui qui gère tout. Le roi ne gère pas. Le roi, il a des ministres qui gèrent à sa place. Alors, c'est quoi son rôle? Son rôle, c'est de s'assurer que tout tourne, comme le cœur.
Mais le cerveau, il n'a pas d'influence sur le cœur aussi.
Le cerveau?
Il n'a pas d'influence sur le cœur.
Le cerveau a de l'influence sur tous les membres du corps. Tous les membres du cœur. C'est lui qui envoie le signal au cœur pour lui dire, tu dois avancer.
Mais
sûr qu'on s'en rend pas compte.
Il y a quelqu'un là récemment qui arrive à l'expérience, il arrive à ralentir les mouvements du cœur. Il arrive à ralentir carrément.
Avec son cerveau.
Oui, avec son cerveau. Et on croit qu'il est mort, le cœur bat.
Mais c'est clair, le Zohar dit clairement, il dit Moar Shalit à la lève. Il dit que le cerveau domine le cœur. Cette notion, c'est une notion d'ailleurs que dans le Tanya, ça sera une base du Tanya, ça, dans la suite. À partir du chapitre 12, 13, 14, 15, 16. La notion que le cerveau domine le cœur, c'est la base, c'est la clé pour expliquer comment je peux me battre avec mon Yitzhara. Parce que sinon, si je dis, qu'est-ce que tu veux, c'est pas de ma faute, mon cœur, il voulait le faire. T'es obligé de dire quelque chose qui est plus fort que le cœur, c'est le cerveau. Sinon, il n'y a pas de libre arbitre.
Attends, 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 oui, on n'a pas ni sadique, ni cœur. Enfin, on a, ni savoir ni cœur, je dis, parce qu'il n'y a pas de sadique, il n'y a plus de sadique.
Attends, sur, qui t'a dit que le sadique, tu dois le toucher, tu dois être en chair en os avec lui? Je parle d'un tzaddik, c'est-à-dire de t'attacher à un tzaddik pour que ton énergie, tu puisses ton énergie de chez lui.
À qui tu veux t'attacher?
Par exemple, tu me poses la question à moi. Quand je vais aller au OL du Rabbi, d'accord? Quand je vais aller au OL du Rabbi, quand avant le 3 Tamouz, j'allais chez le Rabbi, j'allais pas pour le corps du Rabbi. Le corps du Rabbi a rien de spécial. J'allais, non, oui, d'accord, mais j'allais pas pour son corps. J'allais pas pour son corps, j'allais pour son énergie. J'allais pour l'énergie qu'il y avait dedans. J'allais pour puiser de l'énergie. Et ben ça, on l'avait étudié dans la lettre 27, pour ceux qui étaient là. On avait expliqué que c'est exactement la même chose, ça change pas après le départ du tzaddik. Sauf que pour les hommes, c'est plus difficile. Parce que quand tu sens pas le corps d'une personne, quand t'as pas de feedback, c'est plus compliqué. C'est clair.
Mais ça, c'est meilleur quand même que les tzaddikas, parce qu'il est là partout.
C'est plus compliqué. Exactement. Ouais. C'est encore mieux, parce qu'il est pas limité. Il est pas bridé par son corps. Exactement. Il dégage encore plus d'énergie lorsqu'il est mort que lorsqu'il est vivant. Parce que lorsqu'il est vivant, il est bridé par son corps. Il y a des moments où il doit dormir, des moments où il doit manger, des moments où il est fatigué.
Donc là, il se libère de son goût,
c'est ça? C'est ceux qui veulent développer ça plus longuement, dans la lettre 27 de Igaret HaKodesh, qui s'est traduit. Igaret HaKodesh, une très très belle lettre. Et d'ailleurs, c'est pas que pour les tzadikim. C'est applicable même pour quand Dieu préserve, quelqu'un a perdu ses parents, des gens qui lui étaient chers. Il faut savoir qu'après leur départ, ils sont encore plus présents qu'avant leur départ. Sauf que, pourquoi on est en deuil? Parce que c'est difficile. Parce qu'il n'y a pas de feedback. L'homme a besoin d'avoir un feedback. J'ai besoin, quand je dis à quelqu'un, quand je parle à ma femme, je lui dis quelque chose, j'ai besoin qu'elle me réponde. Pas seulement de savoir qu'elle m'a entendu. Même si je sais qu'elle m'a entendu, je veux qu'elle me réponde. Donc pourquoi c'est compliqué avec un tzaddik lorsqu'il est parti de ce monde, pour nous les hommes? Pas parce qu'on pense qu'il ne m'a pas écouté. Parce que je n'entends pas comment il me répond. C'est très compliqué, c'est dur. C'est dur pour moi. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne m'a pas écouté.
Alors, où est le renvoi d'énergie là?
Mais le renvoi d'énergie, c'est l'énergie que ça me donne dans ma Avodat Hashem.
C'est lui qui va chercher l'énergie.
Il me donne de l'énergie. Tu vois bien que quand tu vas à OL, quand tu sors du OL, t'es pas la même personne. T'as fait le plein d'énergie. D'où elle vient cette énergie? Il y a un tzaddik qui t'a envoyé l'énergie. Et c'est pas fictif, hein. C'est pas l'autosuggestion, c'est les choses qui sont prouvées.
T'as pas un problème? Tu vas aller au rabbi en personne, tu vas gérer ce problème, il te donne une réponse à
l'énergie. Tu as raison. Je dis pas que c'est la même chose, bien sûr c'est pas la même chose. T'as pas de feedback, t'as pas de réponse. Mais je te pose une question. Est-ce que tu vas voir un tzaddik pour avoir des réponses? Encore une fois, on s'est perdu. Rabotaille. Vous voyez, encore une fois, on fait une erreur. Tu veux un conseiller? Va voir un conseiller. Pourquoi tu vas voir un tzaddik? Le rôle d'un tzaddik, c'est pas de répondre à des questions. C'est pas son rôle. Il peut t'aider éventuellement quand il voit un juif qui vient le voir et qui lui dit je suis perdu, donnez-moi une réponse. Il va te donner la réponse. Il va pas te laisser en plan. Mais c'est pas son rôle. Son rôle, c'est pas de donner des réponses. Ça pour ça, il y a des rabbanim pour ça. Le rôle d'un tzaddik, c'est de te donner de l'énergie. C'est le cerveau pour envoyer de l'énergie au corps. C'est ça son rôle. Et ça, ce rôle-là, il est pas limité par le temps, il est pas limité par l'espace. Il est pas limité par le fait qu'il y a un feedback ou qu'il n'y ait pas de feedback. C'est très très important ce chapitre parce que ça nous explique vraiment la définition de qu'est-ce que c'est un tzaddik. Oui. Ça c'est pas un tzaddik. C'est pas le rôle d'un tzaddik. Mashpia mekabel, c'est-à-dire le mashpia c'est quelqu'un qui doit s'investir dans une personne. Un tzaddik c'est pas son rôle. Le tzaddik son rôle c'est d'envoyer de l'énergie. Après toi qu'est-ce que tu fais de l'énergie, c'est ton problème. Oui.
Si il devait encore envoyer de l'énergie, pourquoi il est parti?
Parce qu'encore une fois, parce que le fait d'envoyer de l'énergie ne dépend pas d'être vivant en chair et en os.
Mais c'est beaucoup mieux pour ses fidèles qu'il soit vivant. Donc si maintenant son rôle c'est toujours d'envoyer l'énergie...
Ça, il faut poser la question à Kadosh Baruch Hu. Bien sûr, c'est une question. C'est évident que pour ses fidèles, c'est plus facile. C'est comme si je te dis, imagine-toi, le cerveau, on le voit plus.
Si, bien sûr.
Alors, on le voit plus, c'est plus compliqué, mais il est là.
Moi, je pensais qu'on avait une mission sur Terre. Une fois qu'on partait, on partait. C'est ce que je veux dire?
Ah non, pas du tout. Le Zohar, il dit pas du tout. Le Zohar, il dit que Yatir Ibrayou, il dit que ceux qui partent de ce monde-ci sont présents encore plus qu'avant. Parce qu'avant, ils étaient bridés par un corps. Et des moments où ils sont là, des moments où ils ont la tête ailleurs, des moments où ils sont fatigués, des moments où ils sont pas disponibles. Mais une fois qu'ils sont plus bridés par leur corps, ils sont encore plus présents qu'avant. Parce que quand tu dis... Alors, moi, je vais poser une question. Excuse-moi, je vais faire comme le juge, je réponds par une question. Tu dis qu'ils sont partis. Ils sont partis où? Où est le Gan Eden?
Je sais pas.
Mais attends, où est le Gan Eden? Il est où le Gan Eden? Bah il est où? Tu crois qu'on va envoyer des sondes, on va monter, à un moment on va dépasser 10 millions de kilomètres, hop, Gan Eden?
Je sais pas du tout. Ça.
Il est où Gan Eden? Mais il est où? Où elle va la Neshama? Elle est là, c'est là, c'est ici. C'est un autre. Alors ça, Bezrat Hashem, on développera. C'est un autre niveau, c'est une autre dimension, c'est une autre réalité, mais c'est ici. Il n'y a pas besoin d'aller chercher ailleurs.
C'est pas un monde parallèle.
Seulement, c'est une autre réalité, c'est une autre dimension. Ça, je l'expliquerai Bezrat Hashem quand on parlera de Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Les gens, quand on leur parle des mondes, les quatre mondes, ils ont l'impression que les mondes, c'est, je sais pas, c'est comme dans un jeu, tu vois, hop, on monte, hop, on monte, on monte, on monte. Oui. C'est quatre réalités, c'est quatre manières de voir la chose. Mais ça, Bezrat Hashem, on y arrivera.
Pourtant, il y a bien des dates propices. Le jour de la mort, c'est une date propice.
Bien sûr, mais bien sûr, mais quel rapport ?
Il y a des jours où il est plus présent, entre guillemets, que d'autres.
Non, il y a des jours où on communique mieux. C'est tout.
Dans l'esprit de qui, dans celui
il y a des jours où on communique mieux. C'est comme tu as des jours, par exemple, que si je dois communiquer avec un satellite, il y a un jour où la météo est meilleure et donc la communication est parfaite. Il y a des jours où il y a beaucoup de nuages, donc il y a des parasites. Tu comprends ? Bon, on referme la parenthèse, parce que c'est pas le but. Donc, non, voilà, mon but c'est juste d'expliquer. Ah, parce qu'après, c'est les notions, tout ça, c'est, toutes les questions que vous posez, c'est les notions qu'on va voir. Hein, si je m'engage, c'est que je les ai déjà faites. Et ceux qui sont en cours de Tania le savent, on a déjà vu toutes ces définitions-là. Mais on va Bezrat Hashem, on y passera. Ce que je voulais juste retenir, c'est l'image du cerveau. Que le tzaddik, c'est comme le cerveau, son rôle, c'est d'envoyer de l'énergie. Et que tout le reste, est-ce qu'il va te donner des réponses à des questions? Est-ce qu'il va t'encourager avec un chant? Est-ce que tu vas entendre ce qu'il va te parler? Est-ce qu'il va parler en yiddish et tu comprends le yiddish? C'est des détails, ça. C'est des détails. Non, mais c'est vrai, des fois, non, mais c'est pas que chez le rabbi. Vous savez, la dernière fois, quand il y a le rave Steinman qui est venu en France, il y a des gens qui m'ont raconté après, ils m'ont dit, ouais, on est venu, on croyait, le grand discours, on allait, c'était nul. Je dis, mais pourquoi t'es parti là-bas? Si tu veux un discours, viens étudier la Torah, il y a des discours, c'est pas pour ça que tu vas là-bas. Tu vas là-bas pour prendre de l'énergie. C'est pour ça que tu vas là-bas. Il faut bien comprendre pourquoi on va, où on va.
Ah, mais les gens, tout le monde pense qu'on va avoir un tzaddik pour une réponse, pas pour l'énergie.
Ça, mais pas du tout.
C'est quelle énergie? Non, mais on va
surtout. Surtout par exemple, des fois, des gens, ils vont voir un tzaddik pour demander une bracha. Et le tzaddik, il leur donne pas la bracha. Alors, eux, ils pensent, la visite était ratée. Next time, ils refont le tour, tu vois, ils refont le tour, ils remontent. Hein?
Oui, alors oui, bah oui.
Ah, mais tu es vivant, tu sais, oui, tu vois. Non, mais combien de fois, chez le rabbi, pas que chez le rabbi, chez plein de rabbinim en Israël, il passe devant le rabbi l'ignore, ou bien avant, il répond pas à sa question, hop, il refait le tour. Zerma, ça va pas marcher, ça va remarcher. Mais pourquoi t'es venu le voir? C'est pas pour une réponse. Aussi pour une réponse, accessoirement, t'es venu pour chercher de l'énergie. Et cette énergie, tu l'as vu, il te l'a déjà donné. Si maintenant t'as besoin, tu vas repasser le voir, le tzaddik, il essaiera de te répondre. Et je sais que j'ai vu dans des vidéos, des fois, des gens comme ça qui passaient devant le rabbi, qui repassaient deux fois, trois fois. Et le rabbi, des fois, le rabbi reconnaissait, tu vois, il a un sourire. Et le rabbi, la première fois, il lui dit, ça fait trois fois que vous passez.
J'ai entendu ça.
Mais avec un sourire, tu vois, du style, ne crois pas que parce que tu vas passer trois fois, tu vas recevoir une autre réponse.
Je sais pas, peut-être t'as jamais.
Ok, maintenant, donc là.
Il se rappelle quand même.
Ah, bien sûr, il se rappelle. Ouma Shekatouf. Alors maintenant, on est à Ouma Shekatouf Bezoar. Donc, on a développé une première notion, la notion qu'on a comparé le tzaddik, on a comparé le tzaddik au cerveau. Et donc, tout le monde a besoin de passer par un tzaddik. Le tzaddik n'est pas indispensable. Ah, comment on va faire avec ceux qui sont révoltés contre le tzaddiki? Mais pas le tzaddik s'occupera d'eux, mais il va donner par derrière. Nous, on veut qu'il nous donne par devant, pas par derrière. Très bien. Maintenant, on va parler maintenant du rôle des parents dans la conception de l'enfant par rapport à la neshama que l'enfant aura. Parce que là, visiblement, avec tout ce qu'on a lu ici, comme plusieurs ont dit ici, hein, Youssef est avec nous, comme plusieurs ont dit ici, on a l'impression que bon, c'est déjà fixé, d'accord? Quand on dit voilà, telle personne, il aura telle neshama, tac, 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 tac. Bon, après, il y aura chacun, on aura 5-8, mais on a l'impression que ma position dans l'arbre des neshamas est déjà fixée. Alors dans ce cas-là, est-ce que les parents peuvent avoir un rôle sur la neshama que leur enfant va avoir? La réponse va être oui et non. Ça veut dire oui pour certaines choses, non pour la majorité. On y va. Donc là, on est Ouma Shekatouv. Vous avez Ouma Shekatouv? Voilà, donc page 67 dans ceux qui ont le tanya en français. Ouma Shekatouv au milieu de la page. Ouma Shekatouv, ce qui est écrit Bazohar, dans le Zohar. Ou Bezohar Hadash, et dans le Zohar Hadash aussi. Donc c'est deux livres. Shaikar Talouy Sheikadesh Atzmo Beshat Tashmish Davka. Là-bas, le Zohar dit que le plus important pour donner une bonne neshama à ses enfants, c'est de se sanctifier quand on a des relations avec sa femme. C'est-à-dire de ne pas le faire pour le plaisir, mais de chercher le côté kedusha qu'il y a dedans. Machen kel, bnei amea aretz. C'est-à-dire, le Zohar, il est explicite. Il dit, alors que les enfants des amea aretz, c'est quoi les amea aretz? C'est les gens qui ont des relations avec leur femme que pour le plaisir. Alors il dit, ces gens-là, les enfants auront des neshamot, j'ai pas envie de dire, mais des neshamot presque ratées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Si on lit ce que le Zohar dit ici, est-ce que ça veut dire que les parents peuvent décider de la neshama que leur enfant aura? Est-ce que ça veut dire que selon les kavanot que les parents vont avoir, l'enfant aura une neshama différente. Réponse. Le bon Razaka nous dit oui et non. A inu mishum, she'ein lecha nefesh ruach ou neshama, she'ein la levush mi nefesh de atzmut aviv veimom. Ça veut dire comme ça. Le nefesh, l'âme que l'enfant aura, les parents ne peuvent pas décider. Il expliquera plus tard, il aura des exemples très clairs. Il dira, on a vu très souvent des gens, des parents, très simples, même des fois des réchaïm, avec des neshamot très très basses, et ils ont eu des enfants, des tzadikim, avec une neshama énorme. Pourtant, c'est clair que quand ils ont eu des relations, les parents, c'était pas, il n'y avait pas des grandes kavanot qui sont passées là-bas. Et pourtant, on a vu qu'il y a eu des grandes neshamot qui sont sorties de ça. Donc on est obligé de dire que, est-ce que l'enfant aura une grande neshama, une petite neshama, c'est pas quelque chose qui est maîtrisable par l'homme. C'est quelque chose qui est décidé par un Kadosh Baruch Hu. Clair, point à la ligne. Est-ce qu'on peut changer après la destinée? A priori, non. D'accord? Alors, quel est le rôle des parents? Le rôle des parents, deux secondes, j'arrive. Le rôle des parents, c'est de donner ce qu'on appelle aux enfants le levouche, le vêtement. De donner un vêtement. C'est quoi un vêtement? D'abord, il y a une question avant? Parce que
heureusement.
Que quoi?
Que la neshama n'est pas faite.
Après, heureusement. Au niveau de l'éducation des enfants. Les enfants auront l'éducation que je leur ai donnée. Si je les ai bien éduqués, ils auront une bonne éducation. Alors pourquoi au niveau de la neshama, c'est pas la même chose? Même dans l'éducation, on peut faire marche arrière. Tu peux rattraper, mais on peut pas faire marche arrière.
Là, tu peux même pas rattraper.
Alors, très bien, ok. Alors, qu'est-ce que les parents donnent à l'enfant? Pourquoi c'est important d'avoir des cavanotes? C'est que pour les parents? Non, c'est important pour les enfants. Et en passant, bon, je vais pas trop m'arrêter dessus, mais on dit que quand je parle des cavanotes, c'est même lorsque la maman est enceinte, et qu'il y a des relations, même à ce moment-là, la cavana est importante. Mais je vais pas trop m'arrêter dessus aujourd'hui. Donc, il dit comme ça. Il dit que c'est quoi le levouche? Il dit que le rôle des parents, c'est de donner le vêtement à l'enfant. C'est quoi un vêtement? À quoi sert un vêtement? Donc encore une fois, on a une nouvelle image, une image. À quoi sert un vêtement? Voilà, Serge, je te pose la question, tu es devant moi. À quoi ça sert un vêtement?
À t'habiller, à ne pas être revenu.
Donc ça sert à te
couvrir.
À te couvrir. Donc à te cacher.
À cacher, oui.
Bah, c'est
l'image, oui. Protéger. Cacher, non.
Oui, oui,
à être présentable.
Son apparence.
Protéger le froid.
Je repose la question. Donc à quoi sert un vêtement? Oublions le froid. Oublions le froid. T'es en Israël, à Eilat, il fait 35 degrés. Il fait 35 degrés, t'as pas de problème.
Pas du tout.
Excuse-moi. Première fonction d'un vêtement, il faut retourner à Adam Harishon. Il faut retourner à Adam Harishon. Pourquoi il a mis un vêtement? Pas parce qu'il avait froid. Parce qu'il s'est senti nu. Donc le rôle d'un vêtement, c'est quoi? C'est de couvrir. D'accord. Donc un vêtement, c'est là pour cacher. Pour cacher ma personne. C'est-à-dire, j'ai un corps, et le vêtement cache mon corps. Oui. Mais d'un autre côté, le vêtement peut aussi développer mon corps. Par exemple, si je veux mettre un vêtement classe, ça veut dire que je suis en situation, en position classe. Si je me mets en vêtement sport, c'est-à-dire que maintenant, le fait même de mettre un vêtement sport, ça veut dire c'est dimanche. Attends, j'arrive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un côté, le vêtement, écoutez, on a un peu de philosophie là. D'un côté, le vêtement recouvre la personne. Le vêtement cache la personne. Cache le corps de la personne. Mais d'un autre côté, le vêtement va permettre à la personne de s'exprimer. On s'exprime avec les vêtements. J'ouvre le placard. Est-ce que je prends aujourd'hui la chemise bleue, la chemise blanche, ou le t-shirt, ou les baskets, ou... Ça veut dire que les vêtements me permettent de m'exprimer. Donc ce même vêtement qui est censé me cacher, il va me permettre de m'exprimer. Alors c'est quoi le rôle du vêtement? Le rôle du vêtement, c'est pour me cacher ou pour m'exprimer? C'est les deux. Ça dépend pourquoi. Son rôle, c'est de cacher mon corps.
Ça dépend de l'époque aussi. Hein.
D'accord. Son rôle, c'est de cacher mon corps, mais aussi de m'aider à m'exprimer. Comme vous avez tous dit, par exemple, le dimanche, c'est des gens quand ils sont en vacances, ils vont faire exprès de s'habiller en sport pour dire, voilà, je me sens en vacances. Et je raconte toujours cette histoire que je me rappelle quand j'étais moniteur de Gan Israël. Je me rappelle, il y avait une fois un enfant très intelligent qui avait, je commence à comme ça 4-5 ans, il bégayait beaucoup, mais comme ce qu'on a expliqué par Cher Abenou, mais il était très intelligent. Et une fois, c'était un jour, il faisait un vraiment mauvais temps et il débarque, il arrive au Gan Israël avec des lunettes de soleil. Comme ça, tu vois, grande fraîcheur. Maintenant 5 ans le gosse. Alors lunettes de soleil, tu vois. Alors, il arrive avec les lunettes de soleil, on lui pose des questions, il dit, pourquoi t'as mis des soleils? Il n'y a pas de soleil aujourd'hui. Alors, je me rappelle, comme ça, il dit, je me sens en vacances comme ça. m'avait marqué. C'est-à-dire que lui, quand on met les lunettes de soleil, on se sent en vacances. c'est très fort. Parce que, en vérité, le vêtement permet de m'exprimer. Et permet de me mettre dans un certain état d'esprit. Je m'habille sport, je me sens sport. Je m'habille classe, je me sens classe. Aujourd'hui, je décide quelle chemise je vais mettre, quel costume je vais mettre. Et je m'exprime comme ça. C'est une manière de s'exprimer. D'accord. Plutôt clair, plutôt foncé, etc. Quel rapport maintenant avec la neshama? On peut pas décider de la neshama que nos enfants auront. C'est Akadosh Baruch Hu qui décide. Mais je peux donner à mes enfants le vêtement. C'est quoi le vêtement? Le vêtement, ça veut dire, la manière, le caractère que l'enfant aura. En d'autres termes. Alors ça, je vais vous donner l'image, parce que j'ai vu plusieurs commentaires, mais le commentaire que je pense qui m'a le plus marqué, c'est le commentaire du Rav Stenza sur le Tanya qui explique comme ça. Il dit, c'est très simple. Il dit, qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui ont du mal à faire des mitzvot? C'est-à-dire, dès qu'on leur propose de faire une mitzvah, c'est difficile, etc., on sent qu'il y a un combat. Et d'autres personnes, tu sens, dès que tu proposes une mitzvah, tac, ça clique, ça part tout de suite. Il dit, ça c'est lié au vêtement. Ça c'est le vêtement. La kavana que les parents vont avoir au moment de la relation, mis à part la notion de neshama et la notion d'effort que chacun devra faire, c'est ça ce qui va faire, est-ce que l'enfant aura du mal à faire les mitzvot, ou est-ce que l'enfant aura plus de facilité à faire les mitzvot. Il peut y avoir d'autres paramètres qui viennent en compte pour déranger l'enfant dans ses mitzvot. Mais c'est un grand paramètre. Le fait qu'on ait des bonnes kavanot au moment des relations, automatiquement ça va faire que chez l'enfant, le fait de faire une mitzvah, c'est quelque chose qui est inné. C'est quelque chose qui est facile, c'est quelque chose qui est, il y a une sorte d'automatisme. On a un éclat sur son visage, on sent que il a envie de faire la mitzvah, il est bien dans ce qu'il fait. Ça, c'est les parents qui donnent à l'enfant. Mais ça n'a rien à voir avec la neshama. Ça veut dire, on a vu dans l'histoire des grands tzadikim qui avaient du mal à faire des mitzvot. Pourquoi? Parce que comme leurs parents n'ont pas eu de bonne kavana pendant la conception, donc du coup, la mitzvah leur venait très difficilement. Parce que leur corps bloquait, leur corps faisait un blocage. Ils avaient comme un vêtement qui est là, qui bloque. Mais leur neshama est énorme. Leur neshama est énorme. D'un autre côté, il y a des gens qui n'ont pas des grandes neshamot, mais que les mitzvot c'est naturel, c'est facile. C'est très facile pour eux. Ça c'est grâce à qui? Grâce à leurs parents, parce que leurs parents ont eu des grandes kavana. Alors ça ne veut pas dire que celui qui a des difficultés dans les mitzvot, ça veut dire que ses parents étaient...
Oui,
d'accord?
Oui, ça me rassure.
Ça veut pas dire ça, parce qu'on peut avoir... Non, je vais bien être clair. Parce que là je vois des gens qui vont rentrer chez eux ce soir, on va dire hop, papa, hop. Chas v'shalom, ça veut pas dire ça, mais ça veut dire que ça aide énormément. C'est comme le vêtement. C'est pas parce que je m'habille classe que je suis classe. Mais le fait de m'habiller classe, ça peut m'aider à être classe, à me sentir classe. C'est pas parce que je m'habille sport que je vais être sportif. Mais le fait de m'habiller sportif peut m'aider beaucoup à être dans un vêtement sportif. Qu'est-ce qu'ils font les parents lorsqu'ils ont une bonne kavana? Ils mettent autour de l'enfant un vêtement de kdusha. Qui fait que l'enfant, voilà, c'est-à-dire qu'autour de lui, il a un vêtement de Kdusha. Donc, il a tout déjà pour être dans une ambiance de Kdusha. Il peut avoir d'autres paramètres qui vont le bloquer après. Mais déjà, il a mis des vêtements de Kdusha, il est habillé en sport, il est en train de faire du sport.
Les deux parents qui l'ont mis comme
note? Les deux parents.
Comment ça marche avec l'insémination artificielle?
Sinon, ça marche pas.
Bah, on sait rien, ça.
Mais, c'est
pas la cabane de vouloir.
Très compliqué, ça, c'est très compliqué. Très, très compliqué à l'arrivée, ça. Oui?
On a dit que le bah, la cabane, elle est...
Je n'entends pas la question. Oui.
Quand tu vas jouer,
c'est celle qui va tout faire, d'accord?
Oui.
Et après, la mère va transformer, développer, etc.
Au moment de donner le...
Concernant la cabana,
si tu dis médecin, pense
vous que les deux soient simultanés ou la cabana du père, par rapport à la goutte, doit être supérieure ou pas?
Bon, je peux pas trop développer la cabana aujourd'hui. On développera une autre fois. J'ai compris.
Quoi tu penses?
Le jour où tout le monde autour de la table sera marié, on développera un peu plus. Le Chaim, que tous ceux qui doivent se marier se marient rapidement.
Amen.
Ah, vous inquiétez pas, pour ceux qui sont pas mariés, ce que je dis, ça vous concerne même maintenant. Il faut savoir déjà ce que c'est le mariage.
Non mais nous, on ne veut plus
d'enfants. Pas croire qu'on va se marier pour chercher du plaisir. Donc, dans les mots. Aïnou Mishum, She'en Lecha, Nefesh Ruach Uneshama, She'en La Levush, Mi Nefesh Dat Smut Aviv Ve'imo. Donc, qu'est-ce que donnent les parents à l'enfant? Les parents ne donnent pas la Neshama, les parents ne décident pas la Neshama. Les parents vont donner à l'enfant le vêtement. Et le vêtement peut beaucoup aider. Mais comme tu as bien remarqué, Avraham, que l'habit ne fait pas le moine. C'est-à-dire, tu peux avoir une personne qui met des vêtements super classe, grand couturier, mais laisse tomber, il n'a pas la classe.
Oui,
la classe, soit tu l'as, soit tu l'as pas. Tu vas me dire. Mais ça peut aider. Mais c'est vrai, t'as des gens, tu les vois, ils mettent des vêtements. Mais, soit tu l'as, soit tu l'as pas. Mais. Mais ça change pas. Bon, on rentre pas dans les détails. Mais ça change pas que le vêtement peut aider. Peut aider. C'est pas que ça aide toujours, mais ça peut aider. Ça peut mettre, exactement, Khazak pour la définition, ça peut mettre la personne en condition. Ben, sachez que quand on a une bonne kavana au moment de la relation, même quand la maman est enceinte, c'est-à-dire même quand le bébé est encore dans le ventre, ben, chaque fois, on fait des vêtements autour de l'enfant, des vêtements de Kdoucha, des vêtements de Kdoucha qui fait que l'enfant, il est déjà avec des vêtements de Kdoucha, ça veut dire qu'après, il est déjà dans le coup. T'imagines, ton enfant est né, il est déjà dans le coup. C'est une chance énorme ce qu'on donne à l'enfant. C'est le plus beau cadeau qu'on peut donner à l'enfant. C'est vraiment, c'est dommage de passer à côté. V'chol a mitzvot sheose, akol a liyede auto alevush. Nous dit le Zohar, donc c'est le Harizal qui développe ça longuement, que toutes les mitzvot qu'on fait passent par ce vêtement. Tout passe par ce vêtement, par le vêtement de notre corps. Et donc ça veut dire, quand t'as un vêtement qui est sale, quand t'as un vêtement qui est poussiéreux comme ça, même si t'as un grand tzadik, comme le vêtement il est poussiéreux, alors la mitzvah elle a du mal à passer. C'est comme t'as une personne qui a des vêtements sales, et qui veut dire qu'il est classe. Alors même s'il a une classe innée, et que Béhémet, quand on le voit, il a une classe innée, mais les vêtements ça dérange, on peut pas comme ça. Et ça reste autour de la personne toute la vie. Et on dit que c'est pas seulement la kavana, c'est pas seulement la kavana pendant les relations. On dit que c'est aussi ce que l'enfant va manger. Parce que qu'est-ce qui fait la différence entre un bébé de 1 mois et un enfant de 20 ans? Pour un il pèse 3 kilos, l'autre il pèse, je sais pas combien, 80 kilos. C'est tout ce qu'il a mangé. C'est ce qui fait la différence. D'accord, j'y arrive. Alors ça c'est quelque chose de très important. Il faut savoir quelque chose de très important, que quand on mange pas cachère, ça laisse des traces dans la personne et ça fait un vêtement. Parce que ça veut dire que si j'ai mangé pas cachère, même si tu vas me dire, mais c'est rien par rapport à tout le manger cachère que j'ai mangé. Oui, mais du fait que j'ai mangé pas cachère, chas v'shalom, et que cette nourriture fait partie de moi, même si c'est 0.25% qui fait partie de moi, ça fait partie de moi, c'est un vêtement. Et donc, il n'y a pas batel v'shi, mais ça change pas. Même si c'est un petit peu, c'est bloqué. Et le Rav Senzel, dans son commentaire, il ramène l'histoire d'un grand tzaddik, j'ai oublié son nom, un très grand tzaddik, qui expliquait à ses élèves, il leur disait, faites attention quand vous donnez à manger à vos enfants. À l'époque, ils avaient des nourrices qui n'étaient pas forcément juives. Faites attention, assurez-vous qu'ils mangent cachère. Et il leur racontait comme ça. Il leur a dit, une fois, ma mère a fait l'erreur, j'ai mangé pas cachère. J'ai mangé du lait qui était pas cachère. Il y avait toute une histoire de santé, etc. D'accord? Du lait pas chamour. Quelque chose de pas cachère. Et il dit, ma mère a fait teshuva, moi j'ai fait teshuva, et tout le monde a fait teshuva. Mais à cause de ça, jusqu'aujourd'hui, je ressens encore les traces de ce lait.
Ah, c'est ça.
Oui, parce que c'est un vêtement, c'est une tache qui part pas, qui peut pas partir. On peut pas faire marche arrière. Chaque chose que tu manges, chaque chose que tu dis, chaque chose que tu fais partie intégrante de toi. Mais surtout ce qu'on mange. Manger encore plus ce qu'on dit. Non, papa? Qu'est-ce que tu vas enlever une partie du corps? C'est là, c'est dedans.
Tu l'as pas évacué. On l'a évacué.
Oui, mon frère,
tu l'as pas évacué? T'as récupéré. Tu l'as pas évacué?
T'as tenu.
C'est besoin,
c'est... Non, on a évacué les mauvaises parties, mais on a gardé une partie. Ça tâche la neshama. Non, pas le corps. Non, t'inquiète pas, le corps, il reste clean. Mais ça tâche la neshama. Ça tâche la neshama dans le sens que la neshama, après, quand elle veut s'exprimer au travers du corps, elle a un blocage. Mauvaise action aussi, mais la mauvaise action, moins. Parce que l'action...
Je vole.
J'ai compris, mais le vol ne s'est pas attaché à mon corps. Oui. Ma main n'est pas devenue voleuse.
Oui,
tu me suis? Non, mais attends, je répète. J'ai compris, mais ma main n'est pas devenue voleuse.
Si.
Non? Maintenant, elle est devenue voleuse, je peux décider après qu'avec cette main, je vais mettre la tzedaka. Oui. D'accord? Ma main n'est pas devenue voleuse, mais par contre, dans ce que je mange, ça va devenir ce que je suis. Et ça va rester ad vitam aeternam. Ça partira jamais. Je dis pas que c'est bien de voler, j'ai pas dit ça. Je dis qu'il n'y a pas le même effet que la nourriture. La nourriture, c'est quelque chose qui... C'est pour ça qu'on voit que dans le Shulchan Aruch, il y a beaucoup d'halakhot particulières autour de la nourriture. Et c'est écrit qu'on doit faire attention particulièrement à ce qu'on a mangé à nos enfants. Par exemple, pour l'histoire du lait chamour, que c'est écrit, le Rama dit que même ceux qui font pas attention au lait chamour pour eux-mêmes, c'est bien qu'ils font attention à ça pour leurs enfants. Pourtant, on a toujours l'habitude, c'est le contraire. Que pour les enfants qui sont moins de bar mitzvah, etc., on est beaucoup plus tolérant. C'est comme ça, l'halakha. Et pourtant, le Rama, curieusement, il te dit non. Il te dit, pour le lait chamour, même ceux qui font pas attention chez eux, pour eux, mais pour leurs enfants, il faut donner. Pourquoi? Il dit, parce que le lait chamour, parce que ça laisse une trace dans la neshama de l'enfant. Et ça, c'est indélébile, ça part plus. Donc c'est exactement ce qu'on dit ici. Donc le rôle des parents, pendant la conception, et dans ce qu'on donne à manger, et bien sûr aussi, comme vous avez dit, dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait, etc. Mais surtout, dans ce qui va rester dans le corps de l'enfant. Toutes les mitzvot qu'on fait, tout ce qu'on fait, à Kol, à l'idée, au Tol et Vouch, tout passe par ce fameux vêtement que les parents ont donné, au travers de la vie. Va filu ha-shefa shenotim lo min ha-shamayim. D'accord? Et même, va filu ha-shefa shenotim lo min ha-shamayim, même l'abondance que Dieu nous donne par le ciel, c'est-à-dire que même si, même l'abondance, les brachot que Dieu nous donne, pour atteindre ma neshama, pour atteindre mon corps, elles vont passer par quoi? Elles vont passer par ce vêtement, encore une fois. Tout passe par ce vêtement. C'est de la même manière que quand je vois le corps de quelqu'un, je le vois au travers de son vêtement. De la même manière, l'énergie que Dieu m'envoie, la manière comment je communique avec les autres, tout passe au travers de ce vêtement. Donc c'est mon caractère. Est-ce que j'aurai un caractère facile pour faire les mitzvot? Est-ce que j'aurai un caractère difficile? Oui, Mikadesh, oui.
Tu donnes la différence entre Klipa et Livoud.
Et entre, pardon, entre Klipa et
Livoud.
Livoud?
Livoud, pardon.
Bonne question.
C'est très proche.
C'est une très bonne question. Klipa, c'est une écorce. Les vouches, c'est un vêtement. J'ai compris. Non, c'est vrai, vous avez raison. Sauf que klipa, c'est une écorce. On a parlé des trois clipotes. Le rôle de la klipa, le rôle de l'écorce, c'est uniquement de cacher la présence d'Akadosh Baruch Hu. Alors que le rôle du vêtement, comme on a expliqué tout à l'heure, c'est d'abord de cacher, mais c'est aussi de dévoiler, parce qu'on a dit qu'une personne s'exprime au travers de ses vêtements. Donc un lévouche, bien sûr, donc un lévouche, un vêtement, me permet, comme on a dit, de cacher, mais me permet aussi de m'exprimer au travers. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais vous donner un exemple. C'est comme, il y a plein d'exemples dans le sens d'un chassidout. On dit, il y a un massach à ma'alim et massach à mechassé. Je vous donne un exemple. Là, par exemple, imaginez que j'enlève mes lunettes. Vous voyez directement mes yeux. Je vais mettre mes lunettes. Vous voyez plus mes yeux, vous voyez mes lunettes. Au travers de mes lunettes, vous voyez mes yeux. Ouais. Donc, on va dire que les lunettes, c'est un voile qui a caché mes yeux. Non, c'est faux. C'est un voile qui a peut-être caché mes yeux, mais le rôle des lunettes était au contraire que grâce à ça, je peux vous voir. Donc c'est un vêtement qui a caché peut-être, certes, mais qui me permet de vous voir. Alors que la clipa, l'écorce que vous avez parlé tout à l'heure, je refais la parenthèse, c'est une écorce qui est là que pour cacher.
Ça dépend de quoi je mets alors.
Ça dépend du cas. Voilà. Pourquoi? Il a tout compris. Non, même pour toi, t'as envie que je te vois.
D'accord, mais moi pour voir tes yeux.
Voilà, tiens, voilà mes yeux. Voilà. Et un opticien, on fait une petite pub au passage.
Vas-y, fais une pub.
Il y a qu'un, il y a un opticien, hein?
Monsieur
Abbas, opticien? Ah, bah, il y a deux opticiens, alors.
Jamais 203.
Jamais 203, voilà. Ok, dans les mots. Vimi Kadeshatsmo, vous avez dans les mots, Vimi Kadeshatsmo? Comme ça, on finit le Pérec. Alors, je suis 6 lignes avant la fin du Pérec. Après, on aura terminé sur l'âme divine. Après, on va passer à la structure de l'âme divine. Ça, c'est encore un autre sujet très, très intéressant. Vimi Kadeshatsmo, si la personne va se sanctifier, ça veut dire, on a dit se sanctifier au moment des relations qu'il aura avec sa femme.
C'est-à-dire.
Donc, ça veut dire avoir des bonnes kavanotes, d'accord? C'est-à-dire, ça veut dire penser à la mitzvah, penser au fait qu'il va avoir des relations pour se lier avec sa femme, pour s'attacher avec sa femme, et pas pour la recherche du plaisir. Imi kadesh atzmo, mais Bezrat Hashem, un autre cours, on développera. Alors, Yamshir, venez, les célibataires sont prochains, pas de problème, hein, mais je profiterai d'une autre occasion. Imi kadesh atzmo, Yamshir levush kadosh le nishmat beno, s'il va se sanctifier, alors automatiquement, il va donner à son fils levouche kadosh, un levouche, un vêtement qui est saint. Ça veut dire qu'il lui donne toutes les chances de réussir. Va filou ineshama gdola. Même si c'est une grande neshama qui va descendre dans ce corps, tsricha le kidush aviv, cette neshama a besoin de la sanctification de son père. C'est-à-dire, tu peux avoir la plus grande neshama, le plus gros bolide que tu peux avoir à l'intérieur, une neshama puissante. Si les parents n'ont pas eu de bonne kavana, l'enfant sentira toute sa vie un blocage. Ça ne veut pas dire qu'il réussira pas, mais il sentira que ça bloque.
Mais ici, il dit Aviv, il dit pas les parents.
Alors, il dit Aviv, rouler, etc. D'accord? Ça veut dire son père et sa mère. Parce que le Zohar, il s'arrête plus sur, je sais pas si vous avez remarqué dans le Pérec, il arrête pas de parler ici, hein, du père et du fils. Alors, d'ailleurs, en passant, c'est une très bonne question que tu poses, parce que là, ça fait deux semaines, j'ai raconté au Rav Azimov qu'on a terminé Baruch Hashem le Tanya, qu'on a une belle équipe qui a recommencé. Alors, il m'a dit où vous en êtes, je lui ai dit, on arrive au chapitre 2. Et il m'a dit, ah, vous avez au chapitre 2, il me dit une question. Il dit, pourquoi il n'arrête pas de parler ici, hein, du fils? Il dit, le père et le fils. Et la fille. Et la mère. Pourquoi il ne parle pas du rapport entre le père et la mère? Entre le père et la fille. Il n'arrête pas de dire le ben, le fils qui vient de la goutte du sperme du père. Et la fille. Pourquoi il ne parle pas de la fille? Alors, je sais pas. Je lui ai dit, je sais pas. C'est comme une question qu'il a cherché. Je lui ai dit, je vais chercher. Et j'ai cherché dans tous les commentaires du Tania que j'ai une dizaine de commentaires sur le Tania. Il y a aucun qui pose cette question.
Et lui, il avait la réponse ?
Non, il n'y a pas la réponse.
Il
n'a pas la réponse. Mais si tu trouves, dis-moi. Voilà la réponse.
On parle souvent là sur la chaîne Zahra
maintenant. Non mais là c'est quand même c'est vrai c'est une très bonne question. Pourquoi c'est une question que plusieurs ont posée. Plusieurs ont posé cette question là sous d'autres formes mais plusieurs ont posé cette question. On arrête pas de parler du fils. Vous êtes des hommes c'est pour ça que ça vous dérange pas. Et vous savez le Rav Azima je pense qu'il a dû avoir cette question parce qu'il donne cours de Tania aux hommes et il donne un autre cours aux femmes. Je suis sûr qu'il y a une fille qui a dû lui poser la question. Elle a dit mais pourquoi on a pas de parler des garçons là et nous les filles.
C'est
très bonne question. Très bonne question.
Béni Bechor Israël c'est marqué Béni
Bechor Israël. Oui mais quand même. Non mais il arrête pas de parler du fils et du père. On parle très peu de la mère. Il a parlé à un moment de la mère. À un moment il a mentionné la mère. Il a dit Avi Veimo. Un moment.
On peut pas parler de la mère en parlant de Dieu. Parce que Dieu, c'est plus un donneur, c'est pas un receveur.
Oui, peu importe, mais quand on prend l'exemple d'un homme, et qu'on veut parler du fils et de la fille, pourquoi il parle pas de la fille ? Non, c'est une question que j'ai vue.
Parce qu'il parle pas de l'enfant, il dit l'homme, il dit le fils. Et...
Exactement, voilà. Alors, moi j'ai voulu répondre que Ben, ça veut dire l'enfant et pas le fils. Mais après, quand tu vois dans la suite du Tania, dans les références qu'il ramène, dans les références de Gemara qu'il ramène, à chaque fois on voit qu'on parle du fils. On parle du Ben. Pas du Yélé, du Ben. Et là, quand on voit les références, on parle d'un enfant. Bon, pas grave, on a des questions. Quand Bezrat Hashem Macher va arriver, et qu'on va rencontrer l'Admor Hazaken, on aura quoi lui demander. On aura, entre autres. Donc, on continue. Aval, Aneshama Atzma, Inelif Amim, Nishmat Adam Gavoa Lenket, Baliot Beno Shel Adam Yuzev Shafel. Ça veut dire comme ça. Quel est le rôle des parents? Le rôle des parents, c'est de donner à l'enfant le vêtement. Le vêtement, c'est le moyen d'expression. Alors, Bezrat Hashem, après, dans le chapitre 4, on aura tout un chapitre sur expliquer qu'est-ce que c'est un vêtement. Mais en tout cas, on a compris que le vêtement, c'est quoi? C'est le moyen d'expression de l'enfant. Mais la Neshama en elle-même, ça, c'est pas les parents. Des fois, on a une Neshama, Adam Gavoa Lenket, une personne qui est très très grande. Baliot, Beno Shel Adam Yuzev Shafel. On voit comment cette Neshama peut être l'enfant d'un homme qui est nivzé, c'est-à-dire qui est abominable, qui s'est comporté n'importe comment, et que l'enfant, il vient d'une relation, je ne sais comment. Et pourtant, on a une grande Neshama. Combien de fois dans l'histoire on a vu, si juste on reprenait par exemple l'histoire du Roumash? Combien de fois on a vu par exemple d'où descend, de qui descend le Mashiach? D'accord? Tamar. De Tamar. Et la relation qui est entre Yuda et Tamar? Bien sûr, d'accord, attendez. Non, attendez. Bien sûr qu'il y a des Midrashim, etc., qui vont t'expliquer, qui s'est marié avec elle, etc. Mais comme Rashi dit, et comme plusieurs commentaires disent, elle n'y craint pas de pshuto. C'est que le verset ne peut pas quitter le pshat. Le pshat, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui est pas en tout, qui est pas, j'allais dire catholique, qui est pas,
c'est dur.
Alors, qui est pas clean. C'est pas clean.
C'est dans mon réel.
Le père d'Abraham, c'était un
idiot. J'ai pas dit, pas juif. Mais c'est vrai.
Le père d'Abraham, c'était un idiot.
Et l'Edmond Razakan, il pose la question dans son livre, L'Écoute de Torah. Il dit, comment ça se fait? Qu'on voit que les plus grandes Neshamot, pareil aussi, David Améler, de qui descend? De la relation de Boaz avec Ruth. Ouais. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais pareil, l'histoire, elle est vraiment borderline, elle est vraiment, vraiment limite. Bien sûr, après, la Gemara va expliquer, dire qu'elle n'a pas fauté, etc., etc., mais quand tu prends l'histoire au niveau du pshat, c'est pas clair.
Ils ont une relation la première nuit, non?
Bien sûr, ils ont une relation, il prend une fille qui était dans les champs, il la met à ses pieds, elle n'est pas habillée, c'est des choses qui ne sont pas normales. Alors, bon, c'est pas normal, il y a un problème. D'accord? En plus, on te décrit, elle était très belle, etc., il y a un problème, c'est pas normal. D'accord? Donc, c'est particulier. Alors, l'Admor Hazaken, dans l'Écoute de Torah, je peux pas trop m'arrêter dessus, mais j'ai juste une petite idée, une idée magnifique. Il explique, il dit comment ça se fait qu'on voit que, des fois, les plus grandes Neshamot, et surtout dans des plus grands carrefours de l'histoire, on voit que c'est toujours des cas bizarres comme ça, des cas bizarres. Il dit parce qu'en vérité, des fois, l'énergie se trouve dans les forces du mal. Et pour récupérer des forces du mal, on est obligé de le faire croire aux forces du mal qu'on est avec eux. Mais ça, c'est une force qu'il y a que des tzadikim qui peuvent faire ça. C'est très puissant ce qu'on va dire ici parce que je pense qu'il y a que des grandes personnes qui peuvent le comprendre et surtout le faire. Ça veut dire comme ça. Par exemple, Yehuda et Tamar. Tu vois, il fait croire, il sert on va faire une avéra. Donc le tsar, il dit, vas-y, je suis avec toi. Et là, la dernière minute, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tous les commentaires disent? Il a fait les kiddushin, il l'a marié. Maintenant, le tsar, il a pas eu le temps de reprendre le contrôle. Hop, c'est fini, c'est trop tard, c'est déjà fait. Et l'Admor Hazaken, dans l'Écoute de Torah, il dit que dans les plus grands carrefours de l'histoire, il y avait des moments dans lesquels il y avait des forces qui étaient prises en captivité par les forces du mal. Et la seule manière de les reprendre, c'était par la ruse. Alors, notamment, par exemple, là-bas, l'Admor Hazaken, dans l'Écoute de Torah, il dit que c'est la raison pour laquelle Yaakov a volé les brachot à son frère. Et il a menti. Il a dit, son père lui a dit, est-ce que c'est toi? Il a dit, je suis Esav ton aîné. Alors bien sûr que Rashi va nous dire qu'en vérité, il a dit, je suis, virgule, Esav est ton aîné. Bon, mais encore une fois, c'est... C'est borderline, on joue avec la loi.
C'est
limite. Pourtant, on a toujours appris que Yaakov, c'était Ishtam, un homme intègre. Alors comment l'homme intègre se met à mentir? Comment ça marche? Pourquoi il a menti?
C'est pas la bonne cause.
Pourquoi il a menti? Son père, il lui dit, je veux bénir Esav. Pourquoi il vient, il dit, non, bénis-moi à moi. Prends-toi ce que tu prends, laisse ton frère ce qu'il doit prendre. Pour qui tu prends pour aller voler ce qu'a chez l'autre? Encore une fois, parce que Rivka, sa maman, a compris qu'il y avait une puissance énorme qui est en train de partir dans des forces négatives et que la seule manière de le prendre, c'est par la ruse.
Comment ça se fait que lui... Attends, hein, comment
mais ça c'est pour les tzadikim.
Comment ça se fait que lui, il est s'apprêté à bénir Esav,
oui.
alors que...
Ça c'est une autre question.
Alors que normalement, il est censé être plus grand que deux. Comment ça se fait que lui, il n'a pas su que c'était pas la bonne chose?
Parce qu'il était conscient de l'énergie qu'il avait dans son fils.
Il savait, et qu'il
espérait, il croyait en son fils jusqu'au bout que son fils allait faire teshuva. Parce que Esav, selon le Zohar, a une énergie qui est beaucoup plus forte que Yaakov. Beaucoup plus forte. Yaakov vient de Olam HaTikoun et Esav vient de Olam HaTohu. Mais bon, ça c'est des notions qu'on va voir plus tard. Hein. Je ne veux pas rentrer dedans, je ne veux même pas vous embrouiller. Bon, je referme la parenthèse en tout cas. Voilà, c'est juste une petite parenthèse pour une petite sucrerie pour la fin. Donc, dans les mots... Donc, conclusion de ce chapitre. Si on devait conclure ce chapitre, qu'est-ce qu'on a expliqué dans ce chapitre? On a défini l'âme divine. S'il vous plaît, Rabotai, donnez-moi juste 2 minutes, comme ça on termine. D'accord? Conclusion. On a défini dans ce chapitre qu'est-ce que c'est l'âme divine. On a donné plusieurs définitions. Première définition, la Torah nous parle que l'âme divine a été insufflée. Donc, insufflée contre soufflée, pour le reste du monde, ça veut dire que Dieu s'est investi particulièrement dans l'âme divine. Élément numéro 1. Élément numéro 2, on a dit que la Neshamot Israël sont dans la pensée d'Akadosh Baruch Hu. Ils sont dans le projet d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi dans le projet? On a expliqué. Ça veut dire que le Ham Israël, nous sommes un but en soi. Nous ne sommes pas un moyen, nous sommes un but. Comme on l'a pu développer longuement la semaine dernière. Deuxième élément. Troisième élément, les Bnei Israël sont comparés à des enfants. De la même manière que les enfants, que l'enfant vient de la goutte du sperme du père et que peu importe le membre de l'enfant, tout vient du père. De la même manière, peu importe la neshama que j'ai, peu importe si je suis un tzadik ou un rachat, je viens d'Akadosh Baruch Hu, je suis un morceau d'Akadosh Baruch Hu. Mais néanmoins, l'idée du corps, l'idée du fils et du corps nous a appris que de la même manière que dans le corps du fils, on aura les membres qui sont dépendants du cerveau, de la même manière, on dépend des tzadikim, comme on a expliqué longuement aujourd'hui que le rôle d'un tzadik, c'est pas de donner des brachot, c'est pas de répondre à des questions. Ça peut être ça aussi. Accessoirement, son rôle, c'est de donner de l'énergie. De donner de l'énergie au Kaal qui a besoin de ça. Ça, c'est son rôle principal. Le reste, c'est accessoire. S'il veut donner un Dvar Torah et au travers du Dvar Torah donner l'énergie, c'est son problème. Mais son rôle, c'est de donner de l'énergie comme le cerveau, que son rôle, c'est de envoyer de l'énergie aux membres. Envoyer, renvoyer, redistribuer, envoyer l'énergie. Ça, c'est pour expliquer le rapport entre le cerveau et les membres, comme le tzaddik et le reste du corps. Et enfin, on a expliqué le rôle des parents. Le rôle des parents, les parents ne peuvent pas décider la neshama que l'enfant aura, mais les parents peuvent décider du levouche, du vêtement que l'enfant aura. On a dit c'est quoi le vêtement? C'est le mode d'expression, comme on a pu expliquer longuement. On décide,
on n'influence pas.
Ah non, mais c'est un résultat, c'est même pas décider, c'est un résultat. Ça veut dire, selon la kavana que j'aurai pendant les relations, c'est ce qui va faire le vêtement de mon fils. Ça veut dire, si j'ai une kavana tordue, ben Dieu préserve, mon fils aura un aura de Touma autour de lui. Si j'avais une kavana de Kedusha, toute sa vie, il aura un aura de Kedusha autour de lui. Donc c'est, ça va l'accompagner toute sa vie. Et pareil pour ce qu'on mange, etc., comme ce qu'on a pu expliquer. Et donc, comme on a expliqué, ça n'a rien à voir avec le niveau de la neshama. On a eu des neshamot de grandes tzadikim, mais qui avaient des vêtements tordus. Et d'un autre côté, on a des gens qui ont des petites neshamot, mais des bons vêtements. Ça veut dire que Baruch Hashem, les mitzvot chez eux vont facilement et vont rapidement. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Et Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on va commencer à expliquer la structure de la neshama. Donc la structure sentimentale, structure intellectuelle. Là, on va commencer à rentrer dans la Kabbalah. Très, 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 très intéressant. Pour expliquer la structure de nous à l'intérieur, la structure d'un projet. Ça va nous apprendre aussi quand on se lance dans un projet, comment on le construit. Très, très intéressant. Ça, c'est vraiment un chapitre passionnant, c'est chapitre 3. Voilà. Ça va être un...
On est avec un page là dans le français. Est-ce qu'on peut expliquer, pardon?
67.
Non, le grand liné de Tzadikim, ça explique le fait. Non, ça je suis désolé. Le grand liné de Tzadikim, ça explique que s'ils ont une kavana, ça veut dire que leurs enfants auront des bons vêtements. Mais pas forcément que leurs enfants seront les Tzadikim. Ça, c'est Dieu qui décide.
Tu voulais ça?
Ah, ok, d'accord.
Sans commander, bien sûr. Hein.
Ouais.
Il peut, c'est possible, mais c'est un calcul de la Kadosh Baruch Hu. La Kadosh Baruch Hu peut décider d'arrêter. Il n'y a pas une relation de cause à effet.
Est-ce qu'on peut tirer de l'énergie d'un livre?
Quoi?
Est-ce qu'on peut tirer de l'énergie d'un livre?
Bien sûr.